Chapitre 5e, une première visite. On savait que le docteur Prowdy aurait à s'occuper sans retard de l'installation du conservateur de l'hôpital, d'après la décision récente du Parlement. Mais personne n'imaginait que le choix fût laissé à sa discrétion. Personne ne douta qu'il ne dût réintégrer M. Harding. M. Harding lui-même, en apprenant comment les choses avaient été réglées, n'éprouva pas la moindre inquiétude et se crut assuré de retourner à sa maison riante et à son jardin. Probablement il persuaderait à sa fille de revenir y habiter avec lui. Elle n'en avait en aucune façon fait la promesse, mais ne fallait-il pas que ce cher petit trésor, Johnny Bold, eût toute une maison pour abriter sa tête? Cette conviction fit que M. Harding ne se sentit pas lésé dans ses intérêts par la nomination du docteur Prowdy. Comme beaucoup d'autres à Barchester, il regretta l'envoi d'un prélat qui n'avait pas, on le savait bien, les mêmes idées que son clergé. Mais M. Harding n'avait pas l'esprit étroit, et il était tout prêt à faire à son nouvel évêque un accueil aussi gracieux que respectueux. Il n'avait rien à désirer, rien à craindre. Il ne prévoyait rien qui pût être un obstacle à de bons rapports. C'est dans ces dispositions qu'il se rendit au palais, le lendemain de l'arrivée de l'évêque, pour lui présenter ses devoirs. Mais il n'y alla pas seul. Le docteur Grantly lui proposa de l'accompagner, et M. Harding ne fut pas fâché d'avoir un compagnon qui le déchargea du fardeau de la conversation dans une entrevue aussi embarrassante. Dans la cérémonie du sacre, le docteur Grantly avait été présenté à l'évêque. M. Harding aussi s'était trouvé là, mais il s'était tenu sur l'arrière-plan. Cette fois, il devait être présenté personnellement. Tout différents étaient les sentiments de l'archidiacre. Il n'était pas homme à oublier ses droits méconnus, ni à pardonner à un rival la préférence dont il avait été l'objet. Il était bien décidé à faire une guerre d'extermination à l'heureux possesseur de la mitre tant convoitée, à ses satellites, à ses chapelains et autres. Néanmoins, il était de son devoir de se comporter vis-à-vis de l'intrus comme le devait un vieil archidiacre vis-à-vis d'un nouvel évêque. Et bien qu'il connût les opinions détestables et l'abominable tolérance du docteur Prowdy, bien que l'homme lui fût antipathique et ses doctrines odieuses, il était disposé à se montrer respectueux pour le rang et pour le caractère sacré du prélat. Il se rendit donc au palais avec M. Harding. Sa seigneurie était chez elle, et les deux visiteurs furent introduits dans la salle bien connue d'eux, où se tenait d'ordinaire le précédent évêque. L'ancien mobilier avait été racheté après estimation. Il n'était pas une chaise, pas une table, pas une étagère, pas un carré du tapis auquel leurs yeux ne fussent aussi habitués qu'à la vue de leurs propres meubles. Néanmoins, ils sentirent sur le champ qu'ils étaient là comme deux étrangers. Le mobilier était presque entièrement le même, mais l'ensemble avait été transformé. On avait installé un nouveau canapé, un horrible canapé en toile de Perse, dont l'aspect ne rappelait en rien que l'on fût chez un haut dignitaire de l'Église, un canapé dont on n'avait jamais vu le semblable chez un membre de l'Église anglicane qui se respecta. Les anciens rideaux avaient disparu. Certes, ils étaient bien fanés, primitivement d'un beau rouge sombre, ils étaient devenus bruns. M. Harding, toutefois, les trouvait infiniment préférables à ce mauvais damas de laine d'un jaune criard que Mrs. Prowdy avait jugé assez bon pour la chambre de son mari dans la ville provinciale de Barchester. Nos amis trouvèrent le docteur Prowdy assis sur la chaise du vieil évêque, portant avec une certaine coquetterie le tablier, insigne de sa nouvelle dignité. Ils trouvèrent aussi M. Slope, debout devant la cheminée, aimable et empressé, dans la posture qui avait été celle de l'archidiacre. Mais ils trouvèrent aussi sur le canapé Mrs. Prowdy. C'était une innovation sans précédent dans les annales de l'évêché de Barchester. Oui, elle était là, et il fallait pourtant faire bon visage. Les présentations se firent en règle. L'archidiacre échangea une poignée de main avec l'évêque et présenta M. Harding, qui reçut un accueil en rapport avec ses fonctions plus modestes. Sa seigneurie les présenta alors à Mrs. Prowdy, l'archidiacre, avec tous les honneurs dus à l'archidiaconat, puis M. Harding avec moins de solennité. Ensuite, M. Slope se présenta lui-même. L'évêque, il est vrai, prononça son nom. Mrs. Prowdy le répéta d'une façon très marquée. Mais M. Slope voulut se charger lui-même de sa propre présentation. Il avait grand plaisir à faire la connaissance du docteur Grantly. Il avait entendu vanter le bienfait par l'archidiacre dans la partie du diocèse où il avait exercé ses fonctions comme archidiacre, affectant d'ignorer que celui-ci avait jusque-là étendu l'exercice de son autorité dans tout le diocèse. Il savait que sa seigneurie avait grand besoin de l'assistance que pourrait lui donner le docteur Grantly dans cette partie du diocèse. Il allongea alors la main, et saisissant celle de son nouvel ennemi, il la trempa sans merci de sa sueur. Le docteur Grantly s'inclina avec raideur, fronça les sourcils et essuie sa main avec son mouchoir. Sans montrer aucune confusion, M. Slope voulut bien alors remarquer la présence de M. Harding, membre du bas-clergé. Il lui donna aussi une poignée de main, humide, il est vrai, mais amicale. Il était bien aise de faire la connaissance de M. Harding. Il n'avait pas bien entendu le nom. « Grand chantre de la cathédrale », ajouta M. Slope. M. Harding avoua que telles étaient ses modestes fonctions. « Et avec cela, sans doute, quelques cures dans la ville ?» suggéra M. Slope. M. Harding reconnut qu'il était le titulaire de l'humble cure de Saint Cuthbert. M. Slope, après cette marque de sa condescendance, le laissa seul et se mêla à la conversation des deux dignitaires. Il y avait dans la chambre quatre personnes, y compris Mrs. Proudie, dont chacune se considérait comme le personnage le plus important du diocèse. Il n'était pas vraisemblable qu'elles dussent vivre en bonne intelligence. En réalité, c'était l'évêque qui portait le tablier, insigne de l'autorité épiscopale. C'était lui qui avait le titre. Personne n'y pouvait contredire. L'archidiacre connaissait son terrain et avait dans le diocèse une pratique des affaires qui manquait aux autres. C'était là sa force. Mrs. Proudie avait pour elle son sexe, ses habitudes de commandement, et n'était nullement intimidée par les grands airs et l'attitude quelque peu hautaine du docteur Grantly. M. Slope était à lui-même sa seule force. Sa fortune dépendait de son courage et de l'habileté de ses manœuvres. Il n'en était pas moins plein d'assurance et ne doutait pas qu'il ne vainquît deux hommes assez faibles pour s'appuyer sur des avantages extérieurs ainsi que semblaient le faire l'évêque et l'archidiacre. « Résidez-vous à Barchester, docteur Grantly ?» demanda la dame avec son plus gracieux sourire. Le docteur Grantly exposa qu'il vivait dans sa paroisse de Plumstead épiscopée, à quelques milles de la ville. À quoi Mrs. Proudie exprima l'espoir que la distance n'était pas assez considérable pour empêcher les relations et qu'elle serait bien aise de faire la connaissance de Mrs. Grantly. Elle saisirait la première occasion, aussitôt après l'arrivée de ses chevaux à Barchester. Leurs chevaux étaient encore à Londres. Ils ne devaient pas être amenés immédiatement à Barchester. L'évêque devant être obligé, dans peu de jours, de retourner à Londres. Le docteur Grantly n'ignorait sans doute pas que l'évêque était souvent appelé en ce moment par le comité de perfectionnement des universités. Ce comité ne pouvait se passer de lui. C'était lui qui allait avoir à rédiger le rapport final. L'évêque avait aussi à préparer un projet pour la Société des écoles du dimanche matin et du dimanche soir dans les villes manufacturières, société dont il était le protecteur, ou le président, ou le directeur. Aussi les chevaux ne pouvaient-ils pas encore être à Barchester. Mais aussitôt qu'ils seraient arrivés, elle saisirait la première occasion de se rendre à Plumstead épiscopé, pourvu que la distance ne fût pas trop considérable. L'archidiacre s'inclina pour la cinquième fois. Il avait salué chaque fois qu'il avait été question des chevaux, et promit que Mrs. Grantly aurait elle-même l'honneur de se présenter au palais au premier jour. Mrs. Proudie déclara qu'elle en serait ravie. Elle n'avait pas voulu le demander, ne sachant si Mrs. Grantly avait des chevaux et ne connaissant pas la distance, etc., etc. Le docteur Grantly s'inclina de nouveau, sans répondre. Il aurait pu acheter tout ce que possédait la famille Proudie et lui en faire ensuite présent, sans que la dépense lui fût sensible. Il avait un attelage spécialement réservé pour l'usage de sa femme depuis le jour de son mariage. Tandis que Mrs. Proudie, jusque-là, se pavanait dans les rues de Londres, dans un équipage au mois, tant que durait la saison. Passé cette époque, elle allait à pied, ou prenait, à l'occasion, une voiture de remise. « Les écoles du dimanche soir sont-elles bien organisées dans votre archidiaconé ?» demanda M. Slope. « Les écoles du dimanche soir ?» répéta l'archidiacre avec une surprise affectée. « Sur ma foi, je n'en sais rien. Cela regarde généralement la femme et les filles du curé. Il n'y en a pas à Plumstead. » L'archidiacre ne disait pas vrai, car Mrs. Grantly avait une école fort bien tenue. Ce n'était pas exclusivement, il est vrai, une école du dimanche, et elle n'était pas ainsi appelée. Mais Mrs. Grantly, avec une assiduité exemplaire, s'y rendait une heure avant le service religieux pour faire réciter aux enfants leur catéchisme, veiller à ce que leurs mains fussent propres et leurs cordons de souliers attachés. Ses filles, Griselda et Florinda, y apportaient un panier de gâteaux cuits la veille au soir qu'elles distribuaient aux enfants qui n'avaient pas été punis. Ceux-ci étaient bien aises de les emporter chez eux après le service pour les manger, réchauffer avec le thé. Les enfants de Plumstead auraient ouvert de grands yeux s'ils avaient entendu leur pasteur vénéré déclarer qu'il n'y avait pas d'école le dimanche dans sa paroisse. M. Slope se contenta de hausser légèrement les épaules. Il n'était pas disposé à abandonner son projet favori. « Il me semble qu'ici on voyage beaucoup le dimanche, » dit-il. « Je vois sur l'indicateur qu'il y a le dimanche 3 arrivées et 3 départs de train. Ne pourrait-on amener la compagnie à les supprimer ?»« Ne pensez-vous pas, docteur Grantly, qu'avec un peu d'énergie et de persévérance, on arriverait à diminuer le mal ?»«
N'étant pas l'un des directeurs, je ne sais trop que vous dire. Mais si vous supprimez les voyageurs, la compagnie assurément supprimera les trains. C'est une question de dividendes. »«
Mais assurément, docteur Grantly, » dit la dame, « assurément, c'est d'un autre point de vue que nous devrions considérer la chose. Vous et moi, par exemple, dans notre position, nous sommes tenus de faire tout notre possible pour empêcher une si coupable violation du sabbat. N'êtes-vous pas de cet avis, monsieur Harding ?» Il se tourna vers le chantre, qui était assis silencieux et mal à l'aise. Monsieur Harding exprima la pensée que tous les employés du chemin de fer, hommes d'équipe, chauffeurs, aiguilleurs et autres, devaient avoir la possibilité d'aller à l'église. Il espérait qu'il en était ainsi. « Mais assurément, » continua Mrs. Proudie, « assurément, cela ne suffit pas. Cela ne rendrait pas encore complète cette observance du repos sabbatique que nous avons appris à considérer non seulement comme utile mais comme indispensable, assurément. » Quoi qu'il en dût résulter, le docteur Grantly n'était pas d'humeur à entrer en discussion sur un point de doctrine avec Mrs. Proudie, non plus qu'avec M. Slope. Aussi, sans beaucoup de cérémonie, tourna-t-il le dos au canapé, exprimant l'espoir que le docteur Proudie avait trouvé à sa convenance les réparations faites au palais. « Oui, oui, » dit sa seigneurie. Dans le fait, il pensait ainsi. Dans le fait, il ne voyait pas trop de quoi il eût pu se plaindre. L'architecte, peut-être, aurait pu... Mais M. Slope, debout à côté de la chaise de l'évêque, ne permit point à celui-ci de terminer sa phrase embarrassée. « Il y a un point sur lequel je voudrais attirer votre attention, monsieur l'archidiacre. Sa seigneurie m'ayant demandé d'examiner les lieux, j'ai remarqué que les stalles de la deuxième écurie laissaient à désirer. « Mais il y a de la place pour 12 chevaux, » répliqua l'archidiacre. « C'est possible, je n'en doute pas. Mais les visiteurs, vous le savez, sont parfois si exigeants. L'évêque a tant de parents qui viennent toujours avec leurs chevaux. » Le docteur Grantly promit que l'on ferait le nécessaire pour que les chevaux des parents de sa seigneurie eussent toutes leurs aises. Du moins, ajouta-t-il, en ce que permettait la construction primitive de l'écurie. Il en parlera lui-même à l'architecte. « Et les remises, docteur Grantly, » continua M. Slope, « c'est à peine si dans la plus grande on peut loger plus d'une voiture, et la petite, naturellement, n'en contient qu'une. » « Et le gaz, » dit Mrs. Proudie, faisant sa partie dans le concert, « il n'y en a pas dans la maison, sauf dans la cuisine et dans les corridors. Le palais devrait avoir partout des becs et des réservoirs d'eau chaude. » « On ne peut avoir d'eau chaude qu'au rez-de-chaussée. Assurément, il devrait y en avoir dans les chambres à coucher. Il faut en faire monter de la cuisine dans des cruches. » L'évêque approuva formellement cette réclamation. L'eau chaude était un élément essentiel du confortable. Il y en avait dans toute maison respectable. M. Slope avait remarqué que le chaperon des murs du jardin était en mauvais état à plusieurs endroits. Mrs. Proudie avait découvert un grand trou, œuvre des rats sans nul doute, dans la salle des domestiques. L'évêque exprima l'horreur profonde que lui causaient les rats. Il n'était rien au monde, pensait-il, qui lui fût aussi odieux qu'un rat. M. Slope avait encore observé que les serrures des bâtiments extérieurs étaient insuffisantes. Il pouvait spécifier celles du magasin à charbon et du bûcher. Mrs. Proudie avait vu également que celles des portes des chambres des domestiques étaient aussi en mauvais état. D'ailleurs, toutes les serrures du palais étaient anciennes et hors d'usage. L'évêque fut d'avis que rien n'était si important qu'une bonne serrure, si ce n'est une bonne clé. Il avait remarqué que, bien souvent,
la clé n'allait pas quand la garde de la serrure était, si peu que ce fût, tordue. Mrs. Slope continuait l'énumération de ses sujets de plainte quand l'archidiacre l'interrompit un peu brusquement. Il réussit enfin à expliquer que c'était à l'architecte diocésain qu'il fallait s'adresser pour des détails de ce genre, que lui, le docteur Grantly, ne s'était enquis que par politesse du confortable de leur installation. Il apprenait avec regret que tant de choses fussent défectueuses, puis il se leva pour prendre congé. Mrs. Proudie, tout en prêtant à M. Slope son assistance dans la récapitulation des réparations à faire, n'avait pas pour cela lâché M. Harding, ni cessé de le questionner au sujet des amusements coupables par lesquels on violait à Barchester la sainteté du sabbat. Elle avait lancé une grêle d'assurément, à la tête du malheureux chantre, qui avait été fort malhabile à parer les coups. Jamais, auparavant, il n'avait subi semblable supplice. Jusque-là, quand des dames l'avaient consulté sur des points de religion, elles avaient écouté ses réponses avec déférence, et si elles n'avaient point partagé ses opinions, elles avaient eu la convenance de garder le silence. Mais Mrs. Proudie, après l'avoir soumis à un interrogatoire, le sermonna. « Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, » dit-elle avec insistance, à plusieurs reprises, comme si M. Harding eût oublié les paroles du Livre Saint. En faisant cette citation, elle agitait le doigt, comme pour le menacer d'un châtiment. Enfin, elle le requit de dire si, selon lui, voyager le jour du sabbat n'était pas une profanation, une abomination. M. Harding n'avait jamais été de sa vie harcelé de la sorte. Il sentait qu'il devait une remontrance à une femme qui se permettait de parler ainsi à un prêtre plus âgé qu'elle de tant d'années. Mais il lui répugnait de faire cette honte à la femme de son évêque, en présence de l'évêque même, dans le cours d'une première visite au palais. Et puis, il faut le dire, il avait peur d'elle. Quant à elle, le voyant silencieux et absorbé, elle n'en continua que plus vivement ses attaques. « J'espère, monsieur Harding, » dit-elle en secouant la tête lentement et avec solennité, « j'espère que vous ne me laisserez pas croire que vous approuvez les voyages le jour du sabbat. » Et elle lui lança un regard des plus significatifs. Monsieur Harding ne pouvait se soustraire à la nécessité de répondre. Monsieur Slope le regardait, ainsi que l'évêque, et aussi l'archidiacre qui avait fini de prendre congé. Monsieur Harding se leva et tendant la main à Mrs. Proudie. « Si vous voulez venir un dimanche à St. Cuthbert, je vous prêcherai un sermon sur ce sujet. » Ils se retirèrent donc tous deux, faisant un profond salut à Mrs. Proudie, donnant la main à l'évêque et évitant de leur mieux celle de Monsieur Slope. Monsieur Harding dut cependant subir la pression humide, tandis que l'archidiacre faisait le serment qu'aucune considération humaine ne pourrait le déterminer une seconde fois à toucher la patte de cet animal immonde. Si j'avais le génie d'un Homère, je chanterais en vers épiques le noble courroux de l'archidiacre. Les degrés du palais conduisaient à une allée sablée terminée par une petite grille qui ouvrait sur la rue, tout près d'un passage couvert conduisant au parvis. Tant qu'ils n'eurent point passé cette petite grille, et qu'ils ne furent pas entrés sur le parvis, ils demeurèrent tous deux silencieux. Mais M. Harding vit clairement, aux yeux de son compagnon, qu'un orage se préparait, sans être disposé lui-même à le détourner. Quoique moins irascible que l'archidiacre, M. Harding était en colère. Lui-même, cet homme doux et poli, n'était pas disposé pour le moment aux paroles courtoises.